confirme. Vous êtes bien sur Fréquence 7 avec aujourd'hui, nous accueillons une invitée, Hélène. Je vais lui demander de prononcer son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher.
C'est Mika Berizé. Bonjour.
Voilà. Bonjour Hélène. Qui va nous parler de son beau film Blueberry Dreams? Voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé votre choix de faire un film qui se passe en Géorgie alors que vous avez, ça faisait longtemps que vous n'habitiez plus en Géorgie. Vous habitiez en Belgique, n'est-ce pas?
Oui. Alors, oui, j'ai quitté la Géorgie quand j'avais 5 ans. Et pendant 23 ans, j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai vécu en Belgique. Puis un jour, je voulais retourner dans mon pays, apprendre le géorgien et faire du cinéma, parce que je n'ai pas étudié le cinéma, j'ai étudié la politique. Et je voulais aussi voir absolument ma grand-mère qui habite dans une des régions sécessionnistes. Et il fallait que je la voie, il fallait que je découvre d'où je viens. Et donc, je suis partie et je ne suis jamais rentrée.
Et vous n'êtes jamais rentrée.
Ouais, ça fait 9 ans.
Voilà, 9 ans. Alors, bon, ce film est diffusé en Europe de l'Ouest. Est-ce qu'il a été ou est-ce qu'il sera diffusé en Géorgie?
Alors oui, il est sorti, sa première était au Danemark l'année passée. Et depuis, il voyage dans le monde et ça, c'est une grande chance pour moi. Et il a été diffusé à certains festivals en Géorgie et il était aussi au cinéma en Géorgie.
Ah, oui. Ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un film qui vraiment va parler aux Géorgiens, c'est évident. Donc, pour vous, ce film, c'est un peu un retour aux sources. Est-ce qu'en filmant cette famille, vous avez retrouvé la Géorgie de votre enfance?
Alors, ce n'était pas prévu de filmer cette famille-là. Moi, j'attendais mon laissez-passer pour aller justement dans la région de ma maman. Et il y a une frontière, des checkpoints, et c'est très dur de passer. Depuis 2008, la ligne de démarcation est fermée. Et j'attendais. Je voulais filmer ma grand-mère, mon oncle et mes cousins. Et puis un jour, je devais trouver un endroit où rester la nuit. Et je suis tombée sur cette famille. Et les deux petits avaient le même âge que mes cousins. Et je ne sais pas, je me suis sentie tout de suite à la maison. Et je me suis dit, je vais rester un jour, deux jours. Et puis je suis restée 2 ans avec eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé le film.
Et c'est comme ça que le film a vu le jour. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la situation géopolitique qui prévaut dans cette partie de la Géorgie et qui pèse si lourd sur l'ambiance du film? C'est véritablement la toile de fond du film.
Alors, cette région, c'est la Mingrélie. Et elle touche l'Abkhazie, donc la région sécessionniste. Donc, autour de la Mingrélie, il y a des soldats russes qui contrôlent cette ligne de démarcation. Les gens ne peuvent pas passer, il y a toutes sortes de trafic. Et il y a des gens qui essaient de passer illégalement pour voir leur famille, pour aller voir des médicaments, pour toutes sortes de raisons. Voilà. Et ils se font arrêter à la frontière, ils se mettent en prison. Des enfants se font arrêter parce qu'ils veulent aller à l'école en géorgien. Et puis, tout s'est accéléré avec la guerre en Ukraine. Par exemple, les fruits et légumes, avant, s'exportaient en Ukraine. Et maintenant, c'est les Russes qui tiennent le marché des fruits et légumes en Géorgie. Et donc, ils décident des prix. Et donc, cette petite famille qui est à 12 km de cette ligne de démarcation, eh ben, elle vit les conséquences des grandes décisions politiques sur leur petite terre. Parce que leur myrtille, qui provient d'un plan du gouvernement pour raviver la région et pour rendre les gens plus riches et plus, voilà, pour avoir une terre plus fertile, ben en fait non, c'est les Russes qui décident à la fin. Et donc c'est vraiment très paradoxal ce que le gouvernement fabrique dans cette région.
Alors bon, là vous touchez à la dimension politique du film, mais on y reviendra parce que c'est quelque chose d'évidemment très important, certainement à vos yeux qui avez étudié la politique. Oui. Alors, la famille que vous suivez tout au long du film suscite la sympathie. On aimerait rencontrer ces gens, ils sont tellement attachants. Mais vous avez dit comment vous les avez rencontrés, mais je passe donc à la question qui suit. Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que vous les connaissez depuis toujours. Ils vous font totalement confiance, ils s'abandonnent à la caméra avec une spontanéité qui est admirable et qui fait la force et l'intérêt et le côté attachant du film. Mais comment est-ce que vous avez gagné cette confiance?
Alors, le premier jour où je suis restée chez eux, le papa est entré avec son habit tout en rose, très drôle. Et il a dit « J'ai acheté une terre ». je vais te faire mier. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Et comment ses enfants, il les a pris dans leurs bras et tout. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de cette famille où les enfants et les parents sont très, très, très proches. Et chacun a une vraie place. Ils sont égaux. Toute la famille est égale. Donc ça, c'était super. Et donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir les filmer? Parce que c'est dur d'être un intrus. Alors, j'ai baissé les armes, on va dire. J'ai mis la caméra de côté. Et j'ai passé beaucoup de temps sans la caméra. Les anniversaires, les Noëls, tout. Le chant, le travail, manger dans la cuisine. Et donc, et aussi, j'ai raconté mon histoire. Donc, j'ai l'impression que pour faire un bon documentaire, il faut aussi s'ouvrir et trouver l'égalité entre nous et nos protagonistes. Et donc, j'ai raconté des choses très personnelles, de la guerre que j'ai vécue, de l'exil, de... Oui, tout. On parlait de tout. Et puis, on est devenus très amis. Et puis, comme j'étais toujours là, à la fin, c'était toujours, est-ce qu'aujourd'hui, je peux filmer? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous dit d'aller là? Est-ce que vous... Et puis, c'était toujours un accord le matin. Et puis, s'ils en avaient marre, ils arrêtaient, parce que c'est des enfants aussi. Il y a deux petits-enfants et ils ne sont pas du tout habitués à avoir moi et le caméraman toute la journée avec eux. Donc, à chaque fois, on leur demandait, est-ce que ça va pour vous? Et donc, voilà, c'était un accord mutuel. Mais ça prend du temps d'être proche. Voilà, c'est le temps sans caméra qui fait tout, en fait.
Qui fait le film, oui, voilà, bien sûr, dans sa profondeur. Oui. Voilà. Et justement, est-ce que vous dites que vous avez travaillé, filmé quand ça vous paraissait possible, quand c'était judicieux? Est-ce que finalement, vous avez été amené à faire beaucoup à beaucoup éliminer au montage?
Alors... J'ai passé 2 ans avec eux, mais pas 2 ans de tournage intensif. J'avais 120 heures. 120 heures, il faut faire un film d'une heure et demie. Donc c'était très très difficile. Et j'ai eu 2 monteurs et moi-même, donc on était 3. Et avec le deuxième monteur, Yannick Leroy, on a décidé de raconter une histoire et de le monter comme un film de fiction avec des lignes narratives, la ligne narrative des enfants qui grandissent, des myrtilles qui poussent, de la politique qui a à chaque fois des petits points d'attache dans tout le film. Et voilà, donc on a essayé de faire une fiction, d'une histoire. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Donc évidemment, j'ai dû couper beaucoup de scènes qui m'étaient chères, mais c'est comme ça.
Donc, il y a dans ce documentaire effectivement une dimension de fiction. Oui, vous racontez une histoire. C'est une histoire vraie, mais c'est une histoire, oui, incontestablement, avec des personnages, avec bien entendu un personnage central. Vous diriez que le père est le personnage central?
Je pense que le père mène le bateau.
Oui.
Mais je pense que chacun a sa place. Et même la maman, qui est super réservée, même dans la vraie vie, je pense qu'elle apporte toute la tendresse autour de tout ça, parce que le papa, c'est une folie dans tout le film, et il emmène le bateau et toute l'aventure, mais la maman, elle a une place, et évidemment les enfants
aussi. Chacun a son rôle, oui, très, très bien défini, oui. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé la façon, au niveau de la composition du film, la façon dont vous alternez les scènes de travail dans les champs, avec les scènes où l'on voit les enfants jouer, ou encore on voit le père communiquer avec sa famille ou au téléphone. Tout ça dans nos films, un rythme très naturel, empreint d'optimisme, de certain optimisme, malgré les difficultés auxquelles ces gens sont confrontés. D'ailleurs, le père dit à un moment, sa femme lui demande « Est-ce qu'on est dans la merde ?» Et il dit « Oui, mais pas trop. » Et est-ce que vous partagez cette vision optimiste qui se dégage du film?
Oui, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé cette famille, parce que peut-être qu'elle m'a rappelé la mienne. Et ma famille à moi, on vient des deux côtés du conflit. Et donc, quand le pays, il était en train de se battre, nous, on était une famille avec un papa de géorgien et une maman à Praz. Et donc, on a toujours grandi dans la paix et dans l'humour, et il faut rigoler et tout ça. Donc, j'ai vu ça, j'ai vu l'optimisme dans cette famille, dans le papa. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'à la fin, l'une des dernières scènes, quand il avoue à sa femme, qu'il a peut-être fait une bêtise, et ben c'était le dernier jour de tournage. Parce que j'ai compris que là, on était vraiment très, très proche de ce personnage et qu'il fallait s'en aller et faire le film et le laisser régler sa vie et ses soucis, parce que ça atteint quelque chose où j'avais plus ma place. Parce qu'il fallait que je l'aide autrement, et je devais faire ce film pour dénoncer ce programme du gouvernement, pour parler de la politique, et aussi pour montrer cette belle famille à toute la Géorgie et que c'est possible d'être une famille si, si belle, joyeuse et pleine d'optimisme.
Alors justement, où est-ce qu'il trouve sa source, cet optimisme ?
Je pense que le fait de faire pousser quelque chose dans la nature, c'est très beau. Et c'était ça qu'il voulait. Il voulait redonner la vie là où c'était détruit par la guerre. Et il voulait montrer à ses enfants que c'est ça la vie, en fait. C'est
une leçon de vie.
Oui, une leçon de vie, que ça se régénère, qu'il faut s'occuper de sa terre, et que c'est précieux, il faut travailler, il faut aimer la nature, il faut aimer ses animaux, il faut aimer son frère, sa maman, son papa. Et donc, c'est tout ce genre de choses qui ont fait que c'était très, très lumineux et positif pour moi d'être là-bas, même si c'était très dur.
Plus tard, vous nous expliquerez comment ils ont obtenu cette terre, parce qu'ils ne sont pas originaires de cet endroit.
Ils sont originaires de cet endroit. Et donc, le papa était ingénieur à la retraite. Oui. Et la retraite en Géorgie, c'est 100 euros. Voilà. Et il a deux enfants qui sont très petits pour son âge, puisqu'il avait 65 ans. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais les nourrir ? Voilà, je dois faire quelque chose. Et avec sa femme, il y a des publicités partout dans la région. Devenez fermier, vous serez riche et en bonne santé. Prenez ce crédit agricole. Et donc, ils se sont lancés dans cette aventure. Ils n'ont jamais été fermiers, ils ne savaient pas du tout comment faire. Ils ont acheté cette terre. Et puis, il a appris sur des vidéos YouTube comment être fermier.
Comme on le voit dans le film.
Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'ils ont eu une formation d'une demi-journée pour devenir fermier. Voilà. Et c'est un prêt exorbitant. Et en fait, pendant 4 ans, il ne faut pas le rembourser. Il faut juste payer les intérêts qui sont...
Pas négligeables
et qui sont... ils ne sont pas fixes. Donc, c'était 12, 14, 16, 18.
Ils progressent.
Exactement. Ah, oui. Et donc, c'est pour des grandes fermes avec des frigos pour stocker des myrtilles, des tracteurs, tout ça, ça marche. Mais pour des petits fermiers qui ont 2 hectares et qui n'ont pas de tracteur, pas de frigo, rien, qui travaillent avec leurs mains, c'est impossible. C'est impossible. Et Soso est un travailleur. Il se lève à 5h du matin, aller nourrir ses animaux, s'occuper de ses 6000 petites filles. C'est comme ça qu'il disait. Il a dit, j'ai 2 garçons et 6000 petites filles. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup d'enfants, donc il faut que je m'en occupe très tôt. Et donc, c'était un très bon gars. Voilà.
C'était un très bon gars. Et alors, justement, on le voit à la fin du film, il embauche des dames pour l'aider dans la récolte.
Oui.
Là aussi, elles sont formidables. Elles ne veulent pas qu'il paie trop. Elles se rendent compte de ses difficultés. Mais la difficulté majeure, c'est d'arriver à vendre son produit à un prix correct. Et ce n'est pas évident.
Non. Alors, il doit engager des cueilleuses pour quand les myrtilles sont prêtes. Parce que, par exemple, sur une branche de myrtille, elles ne sont pas prêtes en même temps. Donc, il faut repasser, prendre une seule, deux, trois. Et c'est un travail énorme. Et juste Soso, lui et sa femme et ses 2 enfants ne peuvent pas le faire. Donc, il engage ces madames qui ont des noms incroyables. Antigone, Phèdre, parce qu'en fait, on est dans une région d'où vient Médée et Jason est arrivé avec les Argonautes. Là, c'est le pays de Colchide. Donc, tout est empreint de mythologie grecque.
On est en pleine tragédie grecque.
Oui, exactement. Donc, ouais. c'était drôle. Et donc, comme j'avais dit, il y a le business des myrtilles avec les Russes qui donnent les prix. Et donc, quand le gouvernement a mis en place ce programme, ils se sont dit « Ah, les myrtilles, c'est super, c'est le fruit le plus cher. » Et par exemple, les Géorgiens ne peuvent pas se payer des myrtilles avec leur salaire, c'est impossible. Et ils se sont dit « Bah, c'est trop bien, on va exporter. » Mais la licence pour exporter en Europe, c'est 10 000 euros. Ils ne font même pas 10 000 euros, ces petits fermiers. Donc en fait, c'est une catastrophe. Et à la fin, ils sont obligés de vendre aux Russes à un prix, mais dérisoire, et ils ne gagnent rien. Et donc, c'est vraiment...
Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi ils ne peuvent pas exporter vers l'Europe de l'Ouest ?
Parce que la licence est trop chère.
Il faut une licence.
Voilà, pour prouver que c'est des bons produits, que c'est bio.
Ils le disent d'ailleurs. Oui. Ils abordent ce problème.
Parce que l'Union européenne, elle a des... Enfin, c'est très, très, très difficile de faire sortir une marchandise. Mais pas pour les grands fermiers. Ça, ils sont des plans. Mais pour Soso et sa petite ferme, c'est impossible.
C'est pas la bonne échelle.
Non, parce qu'ils gagnent même pas prix de la licence. Donc comment c'est impossible?
Sans compter qu'il dépense une certaine somme pour payer les dames qu'il embauche.
Les dames, oui, et puis pour louer un tracteur une fois de temps à autre, c'est impossible.
Oui. Alors, ce qui est saisissant pour un Français, je reviens à la famille d'aujourd'hui, c'est de voir ces deux enfants qui participent sans se plaindre au travail des champs, des enfants capables de jouer avec ce qu'ils trouvent dans la nature, un serpent, une grenouille, des enfants qui n'ont pas de jouets. Est-ce que cette famille est si solide, et en particulier ces deux enfants, est-ce que ce n'est pas ce qui fait la force de cette Géorgie, qui, malgré les difficultés de toute nature, a su garder ses valeurs fondamentales ?
Eh bien, on était en train de les perdre en Géorgie, ces valeurs. Ouais. La solidarité, l'entraide et tout ça. Et moi, quand j'ai vu cette famille, je me suis dit, ah mais c'est un exemple. Et c'est ça que je veux montrer à la Géorgie, que c'est possible d'aimer ses enfants, de les laisser être ce qu'ils sont, de les laisser avoir des longs cheveux, que les garçons peuvent pleurer, ce genre de choses, c'était possible. Puis la maman, elle voulait qu'ils jouent. C'était ça, les enfants doivent être des enfants. Si vous voulez pas travailler au champ, c'est pas grave, il faut jouer. Et le papa, je suis tout seul. Mais vous m'aidez pas, mais en fait, c'est pas vrai.
Il a le sens de l'humour.
Ah oui, oui, mais lui. Et il les aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout le grand. Le grand, il a dit, mais moi, je vais continuer à faire ce que papa m'a offert. C'est trop beau ce qu'il m'a fait. Et il l'a réalisé quand je les ai emmenés en Belgique pour un festival. C'est la première fois qu'ils prenaient l'avion. Et ils étaient là, on a passé une semaine en Europe. Et on a même pris le bus pour aller voir la Tour Eiffel. c'était fou. Et quand ils ont vu le film, après ils sont montés sur scène et ils ont dit, on n'avait pas réalisé à quel point c'était joli chez nous. Et comment notre papa est si gentil et comment on a de la chance et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Alors que c'est très joli chez vous aussi, hein, mais on veut voir notre papa.
C'est beau ça.
Oui, c'était vraiment touchant et magnifique. Oui. Et c'est ça que le papa voulait. Il voulait, tu peux faire un portrait de nous et comment c'était, comme ça mes enfants m'oublient pas. Parce qu'il sentait qu'il était un papa âgé pour avoir des petits-enfants de 9 et 12 ans. Et qu'il avait des problèmes de santé. Et malheureusement, il nous a quittés il y a 2 mois.
Il est décédé.
Voilà, et c'était vraiment terrible pour moi. Ouais. Moi, je ne peux plus revoir le film. Ça me fait vraiment beaucoup de peine.
C'est douloureux pour vous.
Très, très fort. Et pour les enfants, j'ai été les voir, évidemment, on est en contact, mais c'est dur. Ouais. Mais je suis très heureuse que ce film reste.
Ouais. Mais oui, bien sûr. Alors, à travers ce que vous dites, je me rends compte qu'effectivement, on a déjà un peu abordé ça, que vous avez minutieusement souligner la personnalité de chacun. Le père et la mère sont très différents et ils n'ont pas la même attitude ni les mêmes visées vis-à-vis de leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Oui. Alors, le papa veut qu'il lise 100 livres par jour, comme au temps des communistes. Il disait, moi, je rentrais de l'école et avec une bougie, je lisais 100 livres. Mais c'est pas vrai, évidemment. J'ai écrit 100 poèmes, j'ai fait ça. Et les enfants, ils rigolent tout le temps de leur papa. Mmh. Ça, j'adore. Mmh. J'adore qu'ils soient si libres avec eux. La maman, c'est aller, elle fait des câlins tout le temps. Elle dit, allez jouer, allez manger des glaces. Donc, c'est vraiment la balance des deux et j'adore ça.
Mais j'ai l'impression que la maman n'a pas les mêmes aspirations pour l'avenir de ses enfants que le père. Elle se rend compte que la solution, elle est ailleurs pour eux.
Oui, elle veut qu'il fasse l'université, évidemment. Ouais. Le papa, oui, il faut travailler dans le champ, mais il veut aussi, bien sûr, qu'ils étudient, évidemment. Et elle a dit quelque chose de très beau. Elle a dit, j'aimerais pas que mes enfants aillent en Europe. Je veux que l'Europe soit en Géorgie. Et donc ça m'a fait... Oui, parce que personne veut quitter sa maison. Non. Enfin, voilà. Mais elle veut un pays où les droits de l'homme sont respectés, les droits du travail, et tout ça, où ses enfants sont libres.
Et améliorent leur sort.
Exactement, ouais. Où le travail paye comme il faut, où on respecte les agriculteurs, et où on respecte le travail. Ça, c'est très important pour elle.
Alors, à l'heure où, en Europe occidentale, de plus en plus de pays rendent les études supérieures payantes, est-ce que ses enfants, quel âge ils ont aujourd'hui? L'aîné à quel âge aujourd'hui?
17.
Bon, est-ce qu'il peut espérer faire des études supérieures plus ou moins gratuites?
En Géorgie, il y a un système d'aide à...
Des bourses.
Des bourses, voilà. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils aillent à l'étranger. J'aimerais bien les aider dans ça.
Venir en Europe.
Voilà, parce qu'en plus, en Géorgie, on tombe un peu dans la dictature depuis un an. Et les programmes scolaires changent, l'histoire change, parce que comme dans toutes les dictatures, on s'attaque à l'histoire. Et donc, moi, j'aimerais... Parce que c'est mes petits frères, maintenant. Et j'ai pas envie de les laisser. J'ai envie qu'ils découvrent le monde. Donc,
vous allez les aider.
Oui, j'aimerais. J'aimerais beaucoup les aider, si je peux.
Oui. Alors, d'autres questions que j'avais prévu de vous poser, je ne savais pas si j'aurais le temps, mais je pense que je vais l'avoir. Techniquement, quand on voit cette maison, assez inconfortable sans doute, et petite, on se demande comment vous avez fait pour tourner des scènes à l'intérieur.
Alors, la maison est grande quand même. Il y a deux étages. Et c'est les maisons traditionnelles de cette région, et on se transmet... parents-enfants. Mm-hmm. Donc, c'est la maison où tout le monde vit.
On en hérite, quoi.
Voilà. Et donc, c'est grand quand même, mais ils louent le premier étage pour avoir des sous. C'est comme ça que moi, j'ai pu les rencontrer, puisque j'ai dormi une nuit là-bas. Et le deuxième étage, le chauffage est que dans la cuisine. Et donc, c'est là où, le soir, tout le monde se rencontre. Et il y a beau... Ouais, techniquement, pour moi, c'était difficile, parce que, et pour le chef opérateur, parce que la lumière est horrible, c'est très petit, et il reste tout le temps là. Et donc, c'est ça aussi, le documentaire, c'est... Il se passe rien pendant des jours et des heures et des mois, parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est on se retrouve dans la cuisine avec son livre, son téléphone, la télévision qui est toujours allumée sur les nouvelles, et on est là parce qu'il fait chaud ici. Et donc, voilà, c'est
le
tout.
Foyer, au sens...
Foyer, oui. Et
terme.
Puis il y a des coupures d'électricité, donc il faut un peu, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté les lampes torches. Je me suis dit, un jour, à un moment, on va peut-être jouer avec, et pour finir, on a joué avec
et vous
les
l'avez
lampes.
Fait.
Voilà, donc il fallait réfléchir différemment sur comment aller, à quoi ressemblait le film, parce que c'est important pour moi, l'esthétique. J'ai envie d'emmener les gens en voyage, et je voulais les emmener dans ce champ, et dans cette maison, dans cette cuisine. Et il fallait que je trouve les moyens, mais c'était dur.
Alors parlons du filmage proprement dit, et de l'équipe technique. Vous étiez combien à travailler ?
Alors on était deux, il y avait moi et le chef opérateur, et je prenais aussi le son, et d'ailleurs j'ai fait que des bêtises en prenant le son. Mais c'est pas grave, parce que si j'avais mis des micros à tout le monde, les gens changent avec un micro, ils sont pas très naturels, ils disent...
Ça fige.
Oui, ça fige, et moi je voulais vraiment être un anthropologue ou ethnologue. Donc j'ai décidé de pas faire ça, mais du coup c'était très dur à la post-production son. Les pauvres techniciens, je les remercie d'ailleurs. mais on y est arrivé, donc ça va.
Et où est-ce que vous avez fait le montage ? Où est-ce que vous avez...
Alors, j'ai fait le montage son... en France, à Lussas et à Lyon, et le montage image à Bruxelles.
D'accord. Et alors, j'imagine que là, vous n'avez pas passé 2 ans en continu sur place, vous faisiez des allers-retours.
Alors, au début, on louait des chambres d'hôtel ou des maisons d'hôtes, et puis après, on a loué une maison. Et là, je restais longtemps, 3 semaines, et puis une semaine, ou 2 semaines.
Avec votre collègue.
Mon collègue, voilà. Et donc, on restait 2 semaines, 3 semaines.
Et puis, vous rentrez.
Voilà, et on rentrait un peu, et puis, voilà. Mais c'était 2 ans.
2 ans.
Voilà.
Voilà. Et alors, est-ce que vous avez essayé de respecter le cycle des saisons, ou est-ce que c'était pas possible, peut-être ?
J'ai essayé de... En tout cas, pour moi, c'était facile... Parce que les myrtilles poussaient et les enfants grandissaient. Oui. Donc j'ai suivi ça.
Oui,
aussi.
Parce qu'on voit, on les voit en train de les planter,
voilà.
On les voit en train de les soigner, on les voit en train de les récolter. Donc il y a un respect de tout le cycle.
Oui, ça, je, pour le montage, je voulais. Je voulais un montage linéaire. Et aussi parce que les choses, par exemple, les événements politiques, la guerre en Ukraine, par exemple, c'est arrivé et j'étais là. Donc... Je veux dire, j'ai pas monté. Donc, c'était vraiment chronologique, le montage. Voilà.
Voilà, d'accord. Alors, autre chose, on apprend... Oui, mais vous l'avez répondu à ça. On apprend... Je vous repose la question parce que c'est quand même quelque chose. On apprend que le père est ingénieur. Et pour un Français, ça paraît curieux de penser qu'un ingénieur à la retraite se lance dans l'agriculture pour nourrir sa famille. Mais...
Oui,
mais...
parce que quand on est à la retraite, c'est fini. On n'a plus rien et la retraite est à 100 euros et on ne peut pas nourrir sa famille.
Oui, alors comment ils font les Géorgiens ?
Eh bien, ils vivent dans des grandes maisons tous ensemble et tout le monde s'entraide.
Voilà.
Donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vivent tout seuls. On vit toujours avec ses parents, ses oncles, ses tantes et tout le monde ramène de l'argent, ramène du pain, ramène du fromage. C'est comme ça que ça se passe.
Et ça nous ramène aux ces valeurs fondamentales que le pays a maintenues.
Oui.
Parce qu'il faut l'entraide et capital.
Ah oui, mais là, aujourd'hui, c'est que ça qui nous sauvera. Et je pense qu'en France et en Belgique aussi, on va vers là. Parce que...
Donc vous êtes en train de dire que dans une maison, il peut y avoir 3 générations qui vivent ensemble, comme autrefois ici.
Oui, oui, oui. Et c'est totalement normal, et c'est pas la honte, et c'est comme ça, de vivre ensemble.
D'accord. Une belle leçon pour nous. Alors,
il n'y a pas de maison de retraite, par exemple.
Ah oui.
Mais vraiment très peu, peut-être 1 ou 2 ou 3 maximum. Mais quand j'ai parlé, moi, en Belgique, quand j'ai dit, mais elle est où ta grand-mère à une camarade de classe, elle m'a dit à la maison de retraite. Oh, j'ai pleuré, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, maman, ils mettent les mamies en prison, tu imagines? Et donc, c'était choquant pour nous, parce que nous, jamais on ferait ça, sauf s'il a besoin d'aide médicale, et maintenant, il y a des structures, petit à petit, parce que c'est aussi difficile pour les familles qui ont un malade à la maison et qui ne peuvent pas aider. Donc, ça aussi, c'est. Je veux dire, c'est pas si mal les maisons de retraite quand elles sont bien faites et quand elles produisent des soins bien. Mais c'est juste le fait d'abandonner. On avait cru que c'était un abandon.
Un membre de la famille à la solitude.
C'est à la solitude, c'est exactement ça.
Alors, si j'ai bien compris, vous y avez abordé, mais j'aimerais y revenir parce que c'est essentiel. Ces gens-là bénéficient d'un projet gouvernemental qui vise à encourager les gens à se lancer dans l'agriculture, et en particulier les retraités. Mais ce projet, est-ce qu'il est bien ficelé? Est-ce que ce n'est pas un simple effet d'annonce du gouvernement pour se donner bonne conscience?
Pour moi, c'est une arnaque.
C'est une arnaque.
Mais ça dépend pour qui. Comme j'ai déjà dit, pour les grandes fermes qui ont les moyens déjà d'avoir des choses pour stocker les myrtilles, qui ont des acheteurs qui peuvent exporter en Europe, c'est super. Mais pour tous ces gens, parce que Soso n'est pas le seul, il y a des centaines de personnes, et il y a aussi des jeunes qui ont pris ce prêt. Et non, ça ne marche pas, parce qu'ils sont laissés à l'abandon. Et aussi, les myrtilles ne poussent pas... naturellement là, et donc il y a le changement climatique, il y a des pluies, c'est une région subtropicale, donc c'est vraiment une pluie et c'est fini. Ouais. Et donc il n'y a pas d'assurance, donc s'ils perdent leur récolte, puis ils n'ont rien. Et par contre, les intérêts, il faut les payer, et le crédit, il faut le rembourser à la fin. Donc comment donner un crédit exorbitant à quelqu'un qui n'est pas fermier, qui n'a aucune idée? Et Soso est très 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 intelligent et très très débrouillard, mais il est aussi très maladroit, donc il fait que des bêtises, et donc c'est ça qui est aussi touchant et charmant. Mais il essaie, et ses myrtilles sont délicieuses. Oui, c'est incroyable.
C'est dommage.
Oui, parce qu'après, l'année passée, je voulais récolter des fonds quand on a appris qu'il était malade, pour l'aider pour son traitement. Et on a fait un festival de la myrtille. Et on a vendu ces myrtilles dans la capitale. Oh mon Dieu. On a vendu, mais des tonnes et des tonnes. Et tout le monde a adoré.
Ça. Oui. Alors, une dernière question. J'aimerais que... Parce que ce film met l'accent sur les difficultés quasi insurmontables auxquelles ces gens sont confrontés, par la menace que la guerre fait peser sur eux, par les conditions sociales, je trouve que ce film a une dimension politique évidente. Est-ce que c'était bien votre intention ?
Oui. Moi, quand j'ai décidé de faire des films, donc je viens de la science politique, donc je voulais faire des films politiques. Et pour moi, tous les films sont politiques.
Mais celui-là, particulièrement.
Oui. Mais je voulais aussi montrer le quotidien d'une famille. Et pourquoi aussi je voulais le terminer avant les élections de l'année passée? Parce que je voulais que les gens se rendent compte comment le gouvernement profite de ses habitants, ne fait pas les choses pour son peuple. Et donc c'était important pour moi qu'ils sortent au cinéma avant les élections. Mais malheureusement, ils ont quand même gagné les élections, même si... Tout le monde dit qu'elles ont été truquées. Et là, on tombe depuis un an, le gouvernement géorgien a stoppé l'adhésion à l'Union européenne. On avait reçu le statut de candidat. Et là, ils ont arrêté. Ils ont fermé toutes les ONG. Ils ont mis les journalistes en prison, mes collègues, des gens qui font des documentaires, des acteurs, des écrivains. Nous, on boycotte le centre du film parce que là, il nous oblige à faire des films à la gloire de la Géorgie, sur le nationalisme, à repenser l'histoire, et nous, on ne veut pas participer. Donc, ça fait quelque temps que 500 membres du monde de l'industrie du cinéma boycottent. Donc on n'a plus de travail. Vraiment, c'est très, très difficile. C'est et tous les jours se réveiller avec « Ah, mon ami a été arrêté. Ah, toi aussi. Ah, mon cousin. Ah. » Donc c'est vraiment... Et on a... Voilà, je ne sais pas. C'est,
Donc vous risquez, dans le reste de votre carrière, de travailler en Europe occidentale.
Et ça me rend très triste, mais je ne sais pas comment je pourrais.
Ou alors, autrement. Mais ça peut changer aussi avec le temps.
Je l'espère, parce qu'on se bat. Ça fait depuis l'année passée que les gens sont dans la rue à manifester et on ne laissera pas tomber. Mais il faut repenser notre manière de travailler.
Je comprends. Eh bien, écoutez, l'émission s'achève. Je suis extrêmement content de l'éclairage que vous avez apporté sur un film magnifique, extraordinairement touchant. Merci.
Merci beaucoup.
Donnez-moi le...
Ça va.